Bonjour à tous, il est 15h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Bienvenue dans ce journal.
Karine Bellichat.
Alors que la trêve semble encore s'éloigner au Proche-Orient, les frappes israéliennes se sont intensifiées et dans la bande de Gaza et au Liban. Des raids notamment au nord de Beyrouth ont fait au moins 27 morts et le bilan pourrait encore s'alourdir. La correspondance de Paul Khalife au début de ce journal. Au sommaire de cette édition, c'est un sans-faute pour Donald Trump. Dans les états clés, les républicains remportent aussi l'Arizona, 7e et dernier des swing states. Le président élu est aussi en passe de remporter le vote populaire grâce notamment à l'appui et à l'argent d'Elon Musk. La fille transgenre du milliardaire a décidé de quitter les États-Unis. Et puis la CGT évoque une violente saignée industrielle. Les annonces de suppression d'emplois s'enchaînent en France. Le gouvernement dit encore s'attendre à de mauvaises nouvelles dans les semaines à venir. La trêve semble encore s'éloigner au Proche-Orient. Hier, le Qatar a jeté l'éponge comme négociateur. Doha prévient, il n'y aura pas de retour à la table tant que les deux parties ne feront pas preuve de bonne volonté et de sérieux. Un échec alors que la guerre sévit toujours. L'aviation israélienne a intensifié ses raids dans les différentes régions libanaises. Le Hezbollah poursuit de son côté de ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël. Au moins 27 personnes ont été tuées au Liban, dont 20 dans une frappe qui a visé une localité au nord de Beyrouth. La correspondance de Paul Khalife.
Almet est une grande bourgade chiite sur les hautes montagnes de la ville historique de Byblos, appelée aujourd'hui Jbel. Le raid aérien a détruit une maison dont les propriétaires qui se trouvent à l'étranger avaient installé des familles de déplacés de la région de Baalbek. Seules 5 des 25 personnes qui se trouvaient dans la maison ont survécu au bombardement. C'est la troisième fois depuis le début de la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël le 23 septembre que cette région est visée par des raids. L'aviation israélienne a également fait des morts et des blessés dans des attaques qui ont ciblé ce dimanche des villages du sud du Liban et de la plaine orientale de la Beka. Le Hezbollah a de son côté affirmé avoir repoussé dimanche à l'aube une tentative d'avancée de l'armée israélienne au niveau de Shabaa, à l'extrême sud-est du Liban. Le parti chiite a revendiqué ce dimanche 16 opérations contre des positions israéliennes. Dans une série de communiqués, il a affirmé avoir ciblé à l'aide de roquettes, de missiles guidés et de tirs d'artillerie des concentrations de troupes israéliennes au Liban et des positions ou des localités dans le nord d'Israël. Parmi les cibles du Hezbollah aujourd'hui, une position militaire au nord d'Acre et la ville côtière de Nahariya. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
La guerre se poursuit aussi à Gaza. Une nouvelle fois, la défense civile fait état de raids meurtriers. 25 personnes, dont 13 enfants, ont été tuées dans une frappe israélienne dans le nord de la bande de Gaza, à Jabalia. Un autre bombardement a fait 5 morts et des disparus à Gazaville. C'est donc un grand chelem pour Donald Trump. Le candidat républicain a remporté la totalité des fameux swing states. L'Arizona est tombé aussi dans son escarcelle. Un revers de plus pour les démocrates après les 6 autres états clés conquis par les républicains. La victoire de Donald Trump s'est bâtie, selon de nombreux experts, en grande partie grâce à Elon Musk. Le patron de Tesla est connu pour son extrême opposition à la transidentité, un combat jusque dans sa propre famille. Sa fille transgenre a annoncé vouloir quitter les États-Unis, une décision mûrement réfléchie. Elle avait déjà coupé tout contact avec son père, allant même jusqu'à changer de nom. Romain Lemaresquier.
C'est une annonce qui ne surprend pas les connaisseurs du dossier. Vivian Jenna Wilson, la fille transgenre d'Elon Musk, née sous le nom de Xavier Musk, aujourd'hui âgée de 20 ans, en froid avec son père depuis plus de 2 ans et sa transition, a donc confirmé qu'elle comptait quitter les États-Unis. Sur le réseau social Threads, concurrent de X qui appartient à son père, la jeune femme s'en explique. « J'y pensais depuis un certain temps, je ne vois pas mon avenir aux États-Unis, même si Donald Trump ne reste au pouvoir que 4 ans, même si les réglementations anti-trans ne sont pas appliquées comme par magie, les gens qui ont voté pour lui ne vont pas s'en aller de si tôt. Vivian Jenna Wilson avait annoncé en 2022, à l'âge de 18 ans, ne plus vouloir être associée à son père et avait décidé de reprendre le nom de jeune fille de sa mère, Jennifer Justine Wilson, divorcée d'Elon Musk en 2008. En juillet dernier, Elon Musk, dans une interview, ne pouvait être plus clair, affichant notamment son désaccord avec la transition de son fils.
Mon fils Xavier est mort, tué par le virus woke. Alors j'ai juré de détruire le virus woke après ça.
L'engagement politique d'Elon Musk aux côtés de Donald Trump en est la preuve et la victoire de ce dernier scelle, semble-t-il, la fin définitive de la relation entre le milliardaire et sa fille transgenre.
Les talibans veulent en être à Bakou. Une délégation des maîtres de l'Afghanistan assistera à la COP qui s'ouvre demain en Azerbaïdjan. Le régime n'est reconnu par aucun État au monde, mais il pourrait obtenir le statut de pays observateur. L'Afghanistan est le 6e pays le plus vulnérable au changement climatique, victime notamment de crues fréquentes et de sécheresses. La COP 29 ouvre donc ses portes demain. C'est le grand rendez-vous annuel des négociations internationales pour lutter contre le réchauffement climatique. De dizaines de milliers de négociateurs, des militants, des ONG et des lobbyistes s'y réunissent. Mais en fait, à quoi ça sert une COP? Difficile parfois de comprendre. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
Les discussions peuvent être compliquées à suivre. Vous nous décryptez le fonctionnement d'une COP.
Alors une COP, c'est une conférence des parties. C'est le lieu où se réunissent régulièrement les pays membres d'une convention de l'ONU. Il y a donc autant de COP que de conventions. Et à l'image de celle dédiée à la lutte contre la criminalité internationale, toutes n'ont pas trait à l'environnement. Sur ce sujet, il y a trois conventions nées du sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio, c'était en 1992. La convention sur la diversité biologique, celle sur la lutte contre la désertification et celle sur les changements climatiques. Hasard du calendrier, cette année, les trois COP associées ont lieu à quelques semaines d'écart. Celle sur la biodiversité vient de s'achever en Colombie, à Cali. Celle sur le climat s'ouvre ce lundi donc, et avant la COP désertification qui se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite à la fin du mois. La décision, elle s'y prend par consensus des presque 200 États membres. Le processus, il est ainsi critiqué pour sa lenteur et le manque d'ambition qu'il entraîne, puisqu'il faut contenter tout le monde. Mais à contrario, il garantit la solidité du soutien international aux mesures adoptées. D'autant plus que les COP, elles ne sont qu'un outil parmi d'autres. Les négociateurs se voient en réalité toute l'année et il existe d'autres organes de discussion.
Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. C'était très clair. Les bureaux de vote sont en train de fermer à Maurice des élections législatives dans l'île de l'océan Indien, au large de Madagascar, après une campagne tendue et des informations de presse évoquant de possibles fraudes électorales. Des policiers étaient déployés dans les bureaux de vote pour assurer la sécurité. Le Premier ministre espère remporter un nouveau mandat de 5 ans à l'issue de ce scrutin. La participation pourrait dépasser les 80%. Les résultats sont attendus demain. En France, après Michelin, les plans sociaux risquent de se poursuivre dans l'industrie et notamment dans le secteur automobile. Nous sommes au début d'une violente saignée industrielle. S'alarme la secrétaire générale de la CGT ce matin dans la presse. Les perspectives sur le front de l'emploi sont sombres. Le ministre de l'Industrie, en visite vendredi sur l'un des sites de Michelin, parle de milliers d'emplois en danger et de nouvelles fermetures d'usines dans les prochaines semaines et les prochains mois. Anne Verdaguer.
Sophie Binet n'y va pas par quatre chemins. Cette saignée industrielle s'illustrera par 200 plans sociaux, affirme-t-elle, notamment dans le secteur automobile. Chez les constructeurs, les équipementiers, mais aussi dans la chimie, aucune filière ne sera en réalité épargnée. Et cela est dû chaque fois à la même stratégie des entreprises, poursuit-elle, à savoir toujours augmenter les marges d'une part et distribuer toujours plus de profits aux actionnaires de l'autre. À l'origine de cette situation, on peut y apporter d'autres pistes de réflexion et notamment la fin d'un cycle favorable à l'activité en France, avec la fin des aides Covid, le remboursement des prêts garantis par l'État ou encore une demande intérieure à tonnes, mais aussi pour le secteur automobile, en tout cas une concurrence chinoise féroce et un passage difficile à l'électrique avec des véhicules au prix toujours prohibitif. La tendance est en tout cas déjà bien entamée avec près de 66 000 défaillances d'entreprises enregistrées sur ces 12 derniers mois et la destruction nette de 150 000 emplois attendus en 2025. Le temps où le président Macron promettait le plein emploi à la fin de son second mandat semble bel et bien révolu.
Record du Bitcoin, la crypto-monnaie a dépassé dimanche les 80 000 dollars pour la première fois de son histoire. Dopé par la victoire de Donald Trump, le président américain élu a promis d'assouplir la réglementation en faveur des monnaies numériques. Depuis les résultats de l'élection, le cours du Bitcoin s'est envolé, tout comme le dollar. Et puis plus de 2 mois et demi en mer attendent les skippers du Vendée Globe. Le coup d'envoi a été donné il y a 2 heures maintenant. 40 marins, c'est un record, ont pris le large aujourd'hui au départ des Sables d'Olonne dans l'ouest de la France pour un nouveau périple en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance. Le plus rapide à avoir jamais bouclé le Vendée Globe est Armel Lecléache, il y a 8 ans, en 74 jours et 3 heures. Voilà, c'est la fin de cette édition.